Donc vous l'avez compris, nous n'étions pas forcément d'accord sur l'ensemble des films en compétition cette année au FICA de Vesoul. Fort heureusement, lorsqu'on nous a demandé de sélectionner un coup de cœur de la presse, donc Yannick a remis lors de la cérémonie de clôture à Bastien, parce que le réalisateur n'était pas là, nous sommes rapidement mis d'accord sur un film qui était un peu un outsider en fait cette année, parce qu'il fait partie à la fois de la compétition de visage des cinémas d'Asie contemporain et à la fois de la sélection philippine. C'était Quick Change d'Eduardo Roy Jr. Qui s'intéresse au fait au milieu des transsexuels aux Philippines et notamment au trafic de substances pour faire des opérations donc chirurgicales. Tu n'es pas tout à fait d'accord sur ce résumé?
Si, je suis d'accord sur ton résumé, c'est juste que je me disais que le trafic de substances, c'était pas forcément très clair, c'était juste pour dire que le personnage principal fait des injections de collagène, entre guillemets, donc des transsexuels qui veulent ressembler le plus possible à des femmes, notamment qui veulent avoir de jolies pommettes et des fesses rebondies.
C'est magnifiquement mieux résumé que ce que j'ai dit. Voilà, et finalement ça a été... je pense le seul film sur lequel on était tous autour de cette table assez d'accord, à la fois sur les, bah surtout sur les qualités cinématographiques. C'est le deuxième film d'Eduardo Roy Jr. Qu'on avait découvert il y a 2 ans avec Baby Factory. Je ne sais pas si vous l'aviez vu. Voilà, qui pour moi ça a été une vraie découverte, parce que Baby Factory, qui avait cet aspect très documentaire, m'avait laissé assez froid. Et là, au contraire, le film a une ampleur que n'avait pas forcément son premier film, donc c'est une vraie découverte. Yannick, qu'as-tu pensé du film ?
Ouais, alors c'est vrai que c'est un film qui a le mérite d'être tourné comme un documentaire, comme une fiction, pardon, mais qui aurait pu être fait sous forme de documentaire, parce que c'est vrai que le réalisateur Eduardo Roy s'est inspiré de faits réels. Mais c'est on va dire que c'est du fait divers, mais c'est vraiment affolant quand on découvre ça, voir ces gens qui vont s'injecter du gel de pneus pour devenir des femmes au risque de perdre la vie, quoi. On entre dans un milieu qu'on ne connaît pas, qui est très important aux Philippines, totalement inconnu chez nous. Et c'est vrai que ça fait peur et ça nous fait prendre conscience justement de ce qu'est leur quotidien à ces pauvres gens.
Marie-Pauline, tu n'es pas d'accord non plus sur la formulation.
si, non, c'est juste le quotidien de ces pauvres gens. On a l'impression que c'est un film misérabiliste. Alors pas du tout, puisque c'est un film qui est super coloré, qui est assez joyeux. Qui propose un mélange des genres, parce qu'on a des petites incursions fantastiques, limite un petit peu de cinéma d'horreur par moment, lorsque les fameuses injections tournent mal. Mais oui, moi j'en retiens l'image d'un film qui est vraiment très coloré. C'est vraiment ce qui m'a frappé en fait, sur un sujet comme ça, d'avoir fait un film qui soit extrêmement léger, pas du tout misérabiliste, qui présente un personnage central vraiment que je trouve magnifique, Dorina, la transsexuelle qui pratique des injections, qui est flanquée de son neveu qu'elle emmène partout avec elle, et dans une sorte de correspondance avouée du réalisateur entre la Vierge Marie et Jésus-Christ. Donc ça, c'est assez gonflé, et c'est encore une représentation de la famille qui est d'une modernité extrême. Et voilà, moi je trouve que le film en plus a ce côté engagé de parler d'un milieu qui est très ostracisé aux Philippines et dont on parle pas tellement en France non plus finalement. Je dirais pas que les scènes sont forcément horribles. Je sais que Yannick, tu avais l'air d'être un peu marqué par les scènes de piqûres et autres. je le trouve pas très difficile à regarder pour le coup. Mais
disons que le réalisateur a réussi à temporiser avec le personnage du petit garçon qui est là, qui est comme un extraterrestre dans ce monde. Il n'a rien à faire dans ce monde, mais il le connaît comme s'il avait toujours vécu là-dedans, ce qui est le cas. C'est vrai qu'il y a quelques répliques assez crues aussi, mais voilà, c'est vrai que, comme tu disais, c'est vrai que c'est haut en couleur. C'est le sujet même, moi, qui m'a absorbé, on va dire.
Moi, ce que j'ai bien aimé justement, c'est le côté plonger effectivement dans un sujet, dans un univers, mais il n'y a pas vraiment d'exotisme, il n'y a pas de voyeurisme dans le film. On nous dit pas voilà le monde des transsexuels philippins, regardez ces horribles injections, etc. Tout est filmé de manière très naturelle, avec justement enfin un mélange des genres qui est assez bienvenu, parce que effectivement autant il y a des scènes qui peuvent rappeler un peu le cinéma d'horreur avec ses injections, mais qui ne sont pas non plus dénuées d'humour dans certaines parties. Il y a un côté presque grotesque aussi qui peut être assumé justement sur les transformations physiques que ça peut entraîner. S'interroge aussi l'idée de la beauté. L'idée de la normalité aussi par rapport à ces injections. Donc il y a plein de choses qui se télescopent en fait dans ce film. Et il y a vraiment une audace à la fois thématique qui se retrouve dans ce côté formel, où finalement chaque scène a son identité, chaque scène apporte son lot de surprises et emprunte des chemins qui sont assez étonnants et surprenants. Jérémy, si tu veux rajouter
Ouais.
quelque
Bah
chose.
moi ce qui m'avait marqué dans ce film c'est ouais c'est vraiment la sorte de ouais il prend pas parti, il montre ses femmes, ses hommes comme ils sont. Après c'est au spectateur aussi de se faire une idée peut-être, mais puis ouais ce côté un peu comme tu disais grotesque et de filmer ces femmes, ces transsexuels sous un jour peu flatteur finalement. Mais il y a un côté film de genre qui m'a bien plu. Il a été jusqu'au bout d'ailleurs en filmant Dorina de face à la glace, nue face à la glace. C'est une scène très forte parce qu'il y a, il y a sa condition de femme, d'homme, elle est un peu coincée, elle sait pas vraiment quoi faire. Ouais, c'est pas misérabiliste, c'est pas, il y a plein, je ne sais pas quoi dire, je dis n'importe quoi, on coupera.
Non, mais la représentation du personnage est très intelligente, je trouve, du
Oui,
personnage
voilà, c'est ça,
principal,
ouais.
qui est vraiment introduit comme une femme. Enfin, finalement, il y a
Bah
même
oui, il y a,
c'est une
y a même une
femme.
conf, y a même c'est, moi je la moi je le voilà, c'est une femme, c'est vrai.
Et il le filme tel quel
Jusqu'à que
enfin voilà, avec
jusqu'à que le gosse fasse une petite blague sur le
Ouais. Et donc là,
sur
le
sur sa
regard du
condition,
spectateur,
mais
en fait, a déjà assimilé en fait
que
que
c'était une
le
femme.
personnage est une femme. Donc il n'y a pas de retour en arrière
Non.
qui est possible. Ce qui est une manière justement assez intelligente d'introduire ce personnage par rapport à d'autres transsexuels qui sont montrés justement avec un côté beaucoup plus exagéré qui vient aussi de leur physique, où là il y a l'ambiguïté et pas forcément de mise.
Et ça reste dramatique, mais en même temps, voilà, il te filme pas ça. C'est pas misérabiliste,
C'est
donc
d'une extrême normalité en
voilà, c'est
fait.
ça.
Et c'est intéressant, enfin, je trouve ça passionnant de voir notamment toute la vie privée du personnage, parce qu'on la voit dans ses activités professionnelles, mais on la voit dans sa vie privée notamment avec son petit ami. Et là, on se retrouve dans un couple, mais d'un classicisme absolu. Ils ont des photos d'eux sur les murs ou sur les meubles. Enfin, ils sont dans une espèce de routine, le couple est en fin de course. Enfin, on est vraiment dans la banalité la plus absolue et
Oui, son
sans
histoire,
exotisme et sans.
c'est une histoire d'amour qui se termine mal et c'est un truc, c'est un peu sopesque même par moment. Dans ce je te trompe et mais après on ne sait pas s'il la trompe parce qu'elle a refusé de se faire opérer. Il y a aussi ça, ce côté c'est un transsexuel mais elle renonce pas à sa masculinité, elle ne peut pas se faire opérer. Donc il y a aussi
Il
un
a
conflit
un conflit,
intérieur.
ouais. En même temps, il la trompe avec une
Non, elle est
transsexuelle
au.
qui est absolument magnifique. Donc on peut
Mais
aussi
ouais.
comprendre qu'il ait envie d'aller voir ailleurs, ne serait-ce que parce qu'elle est très très belle, l'autre. Aussi.
D'ailleurs, elle gagne les concours de
Mais voilà,
beauté.
c'est la
Elle a.
Miss.
Et c'est la seule justement qui apparaît assez belle, quoi, finalement. Parce que toutes les autres sont assez effrayantes.
Avec l'héroïne. Avec
L'héroïne est
l'héroïne.
très
L'héroïne
belle.
est très belle aussi,
Ouais.
ouais. Mais justement,
C'est les
c'est les
deux
deux qui se.
qui sont les plus jolies.
Voilà. Puis après, c'est un peu le musée des horreurs, quoi. Pour être. Bah.
Ouais, je
Non,
trouve
mais je dis pas
que. Ouais,
ça pour.
c'est. Il y
C'est pas
a.
un jugement, c'est la façon de les filmer aussi.
Bah, par exemple, il y a une scène où effectivement il y a un personnage qui est mort, et en fait on voit le point de vue du cadavre dans son cercueil, qui filme en contre-plongée les personnes qui viennent lui rendre hommage, et qui en fait explique, oui, elle voulait toujours être la plus belle, mais oh, qu'est-ce qu'elle est horrible comme ça avec toutes ces injections, et qui eux-mêmes ont des visages filmés en tout cas de cette manière en
C'est ça,
contre-plongée avec le point de vue du cercueil, qui ont des visages qui vont vers le grotesque ou ce qu'ils dénoncent par rapport au personnage. Enfin, ils sont la représentation de ce qu'ils peuvent dénoncer. Donc effectivement, je pense qu'ils jouent aussi avec ça, avec cette en tout cas ces corps qui sont inhabituels hein.
Et oui, les qui films sont surtransformés.
Ils ont surtransformé, ouais. Et
les poupées un peu figées, elles n'ont pas d'expression, elles n'ont pas de.
Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter sur sur Quick Change.
Non, c'est un film qui sort de l'ordinaire hein, et qui mérite d'être vu.
Voilà, et s'il y a un distributeur qui nous écoute, il faut le sortir en France.
Oui. Ah ouais, non, ça peut être très intéressant, je pense.
Mission impossible.
Voilà. En tout cas, il a eu le coup de cœur de la presse au FICA
ça,
de Vesoul.
Et ça, ça compte.
Ça peut compter pour une affiche, par exemple. Voilà, le coup de cœur de la presse. L'autre film que bon, on va en parler très, très brièvement, qui ne sortira, je l'espère pas, en France, hein, qui a eu le coup de cœur du public, c'est Again, le premier film de Junichi Kanai, qui... voilà, alors, qui a, comme beaucoup de films de Vesoul, un sujet très fort, puisque ça traite du viol. Hein. C'est une jeune fille adolescente qui se fait violer par son copain avec qui elle commence une relation naissante. Et en fait, ça va expliquer les conséquences de ce viol sur sa vie, jusqu'à la rencontre avec et le face-à-face avec son agresseur. Jérémy, qu'as-tu pensé de ce prix du public? Était-il mérité?
Non, mais
rapidement.
Sans
raconter la fin. Non, vas-y, raconte la fin.
On la raconte. Non. Non, non, mais le problème avec ce film, c'est que tout va bien. La façon dont elle rencontre cet homme, c'est un mec un peu paumé. On le voit qui fait des travaux un peu comme ça. Il y a cette histoire d'amour, elle est attirée. Voilà, tout est mignon. C'est filmé comme un drama, donc déjà ça commence, on se dit ah là il y a quelque chose qui va pas. Ensuite le problème avec ce film, c'est sa façon d'aborder le viol et la façon de presque de dédramatiser le viol et ses conséquences quand il y a ce face à face entre le victime et son bourreau. On se dit qu'après, bon bah voilà, elle l'a pardonné l'a pardonné à son agresseur, et donc tout est presque oublié.
Ouais, c'est un peu ce qui est gênant dans le film, c'est que le film nous dit d'un côté que le viol est presque tabou au Japon, qu'il est extrêmement difficile d'en parler. On voit la suspicion quand elle va, bah, elle veut pas porter plainte, mais sa mère la pousse à porter plainte. Hein. Des policiers eux-mêmes qui ont tendance à dire oui, mais bon, vous sortiez ensemble, donc,
ça, c'est intéressant,
c'est sous-entendu, vous étiez un peu consentant. Donc, on voit cette ambiguïté qu'il peut y avoir par rapport à la vision du viol au Japon. Malheureusement, le film alors, se focalise sur le parcours donc, de cette jeune fille et comment elle arrive à surmonter cette épreuve. Le film nous dit que, bon, bah, pourquoi pas, enfin, pour le surmonter, elle, dans son parcours personnel, elle est obligée de pardonner à son agresseur. Ce qu'on peut comprendre. Le problème, c'est qu'à partir du moment où elle pardonne, le film pardonne également à son agresseur, et la société japonaise pardonne aussi à son agresseur, qui, bon, enfin, il n'est pas condamné, il n'a aucune conséquence, il a un personnage, c'est un tuteur, une tutrice sociale, qui lui permet de continuer à vivre à partir du moment où, justement, il a fait cette démarche. Le regard est plutôt bienveillant sur lui, on nous dit... bon bah finalement c'était une erreur de jeunesse, la vie continue pour la victime comme pour l'agresseur, ce qui est un petit peu dérangeant comme discours.
Ce plan horrible où les deux adolescents se séparent parce que l'entretien est terminé et donc lui s'en va d'un air je t'aime mais je m'en vais, et elle le rattrape avec le son du violon et se ralentit et dit tu m'as violé mais je t'adore, je t'aime mais je veux pas te quitter, c'est atroce quoi. C'est ouais, filmé c'est comme un drama avec les violons.
C'est un peu irresponsable.
Et elle, ouais, elle continue à suradorer ce mec. Elle lui court après au ralenti. Non, on ne part pas. Non, c'est pas possible quoi, de faire ça.
Voilà, donc il y avait... Alors, peut-être on peut enchaîner justement sur un peu la sélection du FICA de Vesoul. On l'avait dit. Enfin, alors, ça fait plus longtemps peut-être que vous voyez des films de la sélection. Mais c'est vrai que l'impression... qui se dégage, c'est que ce sont des films à fort contenu de sociétal, on va dire, qui des fois peuvent mettre la forme un peu de côté. C'était ce qui nous avait apparu il y a 2 ans. C'est peut-être moins le cas de cette année. Donc, qu'avez-vous pensé de la tenue générale de la sélection officielle?
Bah, je trouve que pour la compétition, cette année, c'est effectivement beaucoup moins le cas, parce que finalement, la plupart des films ont des contenus assez intimes. On a quand même beaucoup d'histoires de famille, comme on disait tout à l'heure, des couples qui se déchirent, des femmes qui essayent de s'affranchir de leur mari, de leur vie. Je pense notamment au film iranien Snow and Pines, également l'autre film japonais Summer's End. Donc on a quand même des contenus qui ne sont pas forcément des contenus très lourds de société comme on peut avoir avec le viol ou la question des transsexuels. On a des films qui sont pas... On ne peut pas leur donner un thème comme ça, comme on aurait effectivement pu le faire dans les années précédentes. Et moi, je trouve que c'était une sélection vraiment de très grande qualité cette année, parce que tous les films avaient un vrai intérêt formel, ce qui n'est pas toujours le cas en festival, et que la plupart étaient relativement bien écrits. J'ai aussi noté qu'il y avait beaucoup de personnages très forts et que même si des fois les films pêchaient un peu, il y avait des personnages extrêmement intéressants, notamment de femmes qui étaient beaucoup moins effacées que ce qu'on peut voir des fois dans le cinéma asiatique. Et je trouvais ça vraiment très intéressant. Dans Summer's End, on a une femme qui quitte son mari et son enfant puisqu'elle est amoureuse d'un autre et qui finalement vit avec un homme marié au vu de tous et se lance dans une espèce de triolisme. Enfin, il y a un truc... comme ça que j'ai trouvé vraiment très intéressant. De la construction de ces personnages qui ne répondent pas à ce qu'on attend d'eux, finalement.
Mais c'est vrai que sur les... Il y avait des... Quand même, effectivement, à part dans Eugène. Quoique dans Eugène, justement, le personnage de la mère qui va pousser sa fille à porter plainte, etc., est assez fort, mais on a vu des... Bah, dans Snow and Pines, dont on n'a pas parlé, qui est centré sur un personnage de femme qui veut divorcer de son mari qui la trompe. Donc aussi un personnage de féminin qui est très fort. Et cette figure va traverser un peu tous les films. Bon, je suis un peu moins d'accord sur le... Alors c'est moins une labellisation, mais sur le contenu sociétal des films. Je trouve que c'est quand même... ça reste quand même très marqué, même dans Snow and Pines, par exemple... On peut labelliser très succinctement comme ça en disant c'est un portrait d'une femme moderne dans l'Iran d'aujourd'hui. Donc le contenu sociétal reste quand même très fort dans les films, mais était cette année quand même transcendé, sauf dans Again, par une forme qui était très forte. Enfin, il y a une très belle photographie par exemple dans Snow and Pines, un très beau noir et blanc, une écriture qui est aussi très, très intéressante. Donc ça c'était vraiment la bonne surprise de ce festival. D'être à la fois en raccord avec le monde asiatique contemporain, sauf The Ferry, à chaque fois je vais dire des saufs comme ça, et en même temps proposer des vraies propositions de cinéma à travers les films. Je pense à Quick Change, à Kissa, à Concrete Clouds, dont on n'a pas parlé non plus, mais qui interroge également en fait, les images télévisuelles par rapport aux images cinématographiques et l'imaginaire. La portée sur l'imaginaire et la manière dont on s'en nourrit. Donc il y avait des thématiques qui étaient en tout cas esthétiquement intéressantes cette année. Yannick, un petit mot pour sur la sélection.
Alors c'est vrai que les réalisateurs asiatiques aiment parler de la famille, c'est un thème souvent abordé. Et en plus ils sont champions pour mettre en scène un drame social. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de films qui parlent des rapports entre les parents, les enfants, rapports dans les couples, rapports avec tout ce qui en découle. Et c'est vraiment fréquent les films qui tournent autour de ce genre de thème. Et ben, une fois de plus, on le voit dans la sélection officielle, on a eu droit à ce genre de film. Donc c'est vrai que c'est pas trop surprenant. L'Asie est championne dans ce genre de film et ils savent les réussir.
Bon, ça manquait juste d'un petit film de genre. Si l'année prochaine il peut y avoir The Raid 3, ça pourrait être pas mal. Ça permettrait de dynamiser un peu l'ensemble.